Osmose. Osmose, Fabienne Chauvière.
Le CNRS est un grand organisme de recherche qui regroupe des chercheurs de toutes les disciplines scientifiques. Et au début de l'année, le CNRS a lancé un nouvel institut, l'Institut des sciences de la communication. Dominique Volton, qui est sociologue et directeur de ce nouvel institut, va nous parler de la communication telle qu'il la conçoit. Pour Dominique Volton, la communication est un des grands enjeux du XXIe siècle. Derrière ce mot, il y a des notions de tolérance, d'humanisme, de démocratie. À travers les sciences, on peut donc parler de tout. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Dominique Volton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de la communication politique et des médias. Vous dirigez donc cet Institut des sciences de la communication qui a été créé par le CNRS au début de l'année. Vous êtes directeur par ailleurs de la revue Hermès. Alors communiquer, ce n'est pas informer, enfin pas exactement, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Pendant des siècles, ça a été synonyme parce qu'il n'y avait pas beaucoup de messages qui étaient diffusés, il n'y avait pas beaucoup de récepteurs, il n'y avait pas beaucoup de techniques. Donc en gros, quand on informait, on communiquait. Et la différence entre les deux est apparue à partir, disons, du fin 19e, début 20e, quand les techniques, rappelons quand même le progrès technique en la matière, le téléphone fin du 19e, la radio début 20e, la télévision dans les années 30, les ordinateurs dans les années 40, et les réseaux dans les années 70. Donc on a un siècle avec un extraordinaire progrès technique qui a permis de produire et de diffuser beaucoup plus d'informations. Et du coup, là où la différence s'est jouée entre information et communication, c'est qu'à partir du moment où vous avez beaucoup de messages distribués par beaucoup de tuyaux et qui s'adressent à beaucoup de récepteurs, et bien on s'aperçoit qu'informer ne suffit pas à communiquer pour une raison très simple, c'est que l'information c'est quoi? C'est un message, quel qu'il soit, ça peut être le son, l'image, un texte, une donnée, mais la communication c'est toujours une relation. C'est-à-dire pour communiquer, il faut qu'il y ait un message, un émetteur et un récepteur. Et toute la tragédie et la grandeur de la communication, c'est que le récepteur, si je puis dire, n'est pas en ligne avec l'émetteur. Vous et moi, on nous dit ce qu'on veut, mais on ne retient que ce qu'on veut. Et du coup, c'est la résistance du récepteur qui fait l'intérêt de la communication.
Et dans cette émission, vous allez nous détailler tout ça. Vous nous direz aussi quelles sont les recherches que l'on va faire dans cet Institut des sciences de la communication du CNRS. Dominique Volton, directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, est l'invité d'Osmose. Alors Dominique Volton, cet institut a été créé en janvier dernier. Qu'est-ce qu'on y fait ?
Écoutez, on y développe des recherches sur la place de l'information et de la communication dans nos sociétés. On a un peu trop confondu la performance des techniques avec la réalité de la communication humaine et sociale. Et on s'aperçoit, et c'est pour ça que c'est un enjeu scientifique, que plus il y a d'informations, à la limite, moins il y a de communication. C'est-à-dire que le fait de produire et de diffuser des informations sous toutes les formes, et Internet est un exemple superbe, ne suffit pas à créer de la communication. Donc du coup, la vraie question,
pourquoi
c'est...
Pourquoi? Parce que ça se dilue,
parce que les récepteurs, vous et moi, on trie, on n'accepte pas, parce que plus on est exposé à des messages qu'on refuse, parce qu'on s'aperçoit que les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière, que la diversité linguistique et politique est
gigantesque. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière.
C'est-à-dire que les systèmes cognitifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes, que les cultures ne sont pas les mêmes, que les langues ne sont pas les mêmes. Donc du coup, on a un progrès technique qui est extraordinaire, qui permet à une image et un son de faire le tour du monde en quelques secondes. Et on s'aperçoit que la résistance, c'est les hommes, les sociétés, les cultures. Donc du coup, ça devient un enjeu de connaissance. Et rajouter à ça la mondialisation des techniques d'information qui fait qu'on confond la performance technique et la difficulté humaine, vous avez donc là une espèce d'imbroglio sur la communication. Ajouter que pendant des siècles, information et communication étaient synonymes et valorisés, mais que depuis le début de la pub, du marketing, le mot communication est totalement dévalorisé, alors même que c'est un mot qui est beaucoup plus compliqué que le mot information. En gros, on valorise le mot information et on dévalorise le mot communication. Et je dis tout le temps que non, c'est l'inverse qu'il faut faire. L'information, c'est toujours plus simple que la communication, parce que la communication, c'est une relation, donc c'est un risque. Il y a quand même deux personnes, ça suppose l'égalité, ça suppose le respect de l'autre, donc ça suppose beaucoup de valeurs progressistes. Et pour que la communication réussisse, ben, il faut beaucoup de conditions. Et comme je dis toujours, la com, c'est pas la communication.
Et voilà. Dominique Volton, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On fait de la communication ou de l'information? On informe sur l'Institut ou on fait de la communication vis-à-vis des auditeurs qui écoutent?
Eh bien, on informe sur l'Institut et la création de la communication se fait dans le fait que, à l'autre bout des transistors, des postes de radio, il y a des hommes et des femmes qui écoutent et certains sont intéressés, d'autres sont pas intéressés, donc ils résistent typiquement ou ils tournent le bouton à ce qu'on appelle la résistance à l'information, et ceux qui sont intéressés. Alors du coup, à ce moment-là, il y a une espèce de négociation qui se fait entre eux et nous. Ils disent, tiens, qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse pas? Et c'est exactement ça, la communication. c'est cette négociation que chacun fait avec les messages qu'il reçoit.
Donc, Dominique Volton, on va faire des recherches dans cet institut sur la communication, mais comment ? Vous allez réunir des chercheurs de tous horizons ? Vous avez spécialistes ? Oui, vous allez être nombreux ?
Il y a les deux. Alors, il y a des chercheurs qui sont spécialisés dans les sciences de la communication, mais ce n'est pas les plus nombreux. L'avantage du CNRS, c'est que vous avez toutes les sciences qui sont disponibles. Donc, moi, j'ai créé cet institut qui est transversal donc, au CNRS, pour justement favoriser des recherches dans tous les départements et pas seulement dans les sciences de l'homme. Mais j'ai envie de dire, la communication aujourd'hui, ça concerne autant un mathématicien, un physicien, un chimiste, un biologiste que les sciences de l'homme et de la société pour deux raisons. Et c'est ça le cœur, le réacteur, si je puis dire, de cet institut. C'est que les deux raisons sont, premièrement, dans toute théorie de la connaissance, vous avez aujourd'hui des modèles d'information et de communication qui sont utilisés. Donc nous, on a intérêt au CNRS, puisqu'on a la chance d'avoir toutes les disciplines, de comparer un peu nos modèles de connaissances avec la place de l'information et de la communication. Donc ça, c'est un vrai travail théorique d'épistémologie.
Mais par exemple, pour que je comprenne bien, ça peut concerner un mathématicien, un chercheur en mathématiques.
Par exemple, quand vous prenez la théorie de l'information en cybernétique ou en mathématiques, elle s'est propagée très vite depuis les années 30 jusque vers la biologie. Une bonne partie des théories de biologie sont des théories qui utilisent des modèles cybernétiques ou des théories des systèmes ou des systèmes d'information qui viennent de la théorie mathématique. Mmh. Mais dès que vous passez des maths à la biologie, il y a déjà un changement de paradigme, de domaine de connaissance. Donc c'est le même mot, c'est les mêmes signes, mais ce n'est pas forcément les mêmes significations. Quand vous utilisez le systémisme en sciences humaines et sociales, ce n'est pas du tout le même sens. Une théorie de l'information dans la société, ce n'est pas du tout la même chose que la théorie de l'information quand vous êtes avec des ingénieurs en informatique.
Mais alors, quelles sont les questions concrètes que vous posez pour les recherches ?
Pour le premier pied, c'est... Il y a deux grands pieds dans l'Institut. Le premier pied, c'est finalement... Qu'est-ce que ça veut dire l'information et la communication pour les différentes sciences ? Comment elles l'utilisent ? Quels sont les points communs et les différences ? Donc c'est un travail de ce qu'on appelle de l'épistémologie comparée, pour voir à la fois place, limite de l'information et de la communication dans les différentes connaissances, et de voir comment un géographe ne fonctionne pas sur l'information et la communication comme un biologiste, pas plus qu'un anthropologue, ou un mathématicien, ou un physicien, ou un spécialiste de l'environnement. Donc il y a tout un travail de réflexion critique sur qu'est-ce que c'est qu'informer, qu'est-ce que c'est communiquer, qu'est-ce que c'est que la communication scientifique. Et le deuxième pied de cet institut, c'est en fait de réfléchir à une autre question qui concerne tous les scientifiques aujourd'hui, c'est dès lors que nous ne sommes plus dans notre tour d'ivoire, mais que la science est en interaction avec les techniques, avec l'économie, avec le politique, eh bien tous les scientifiques sont obligés de faire de la communication. À la fois pour se vendre,
pour avoir de l'argent pour leur labo,
voilà.
Entre autres.
Et du coup, ces stratégies d'information et de communication, si je puis dire, montre constamment l'interaction entre la science et la société. Donc le deuxième pied de cet institut, c'est de réfléchir aux conditions de la relation entre la science, la technique et la société. Et les conditions de relation entre les trois, ce sont les problématiques de communication.
Ça veut dire qu'à travers votre laboratoire, vous allez aider un biologiste ou un géographe à mieux communiquer, à mieux vendre son labo, mieux parler de ses travaux ?
Alors ça, c'est un des aspects, si je puis dire, les plus simples. C'est une réflexion sur les conditions de communication et d'information. Donc ça touche la question de la vulgarisation, ça touche les questions des nouvelles technologies, ça touche la question des médias de masse, de la communication oratoire aussi, de qu'est-ce que c'est que se comporter quand vous voyez par exemple le débat qui a eu lieu pour la présidentielle, parce que nous sommes complètement dans une situation de communication publique et même communication politique. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi d'autres questions qui sont, à mon avis, encore plus fondamentales pour l'avenir. C'est qu'est-ce que c'est que le statut de la communauté scientifique ? Comment est-ce que les chercheurs vont garder leur autonomie ? Qu'est-ce que c'est que d'être un expert ? Un expert, c'est à la fois communiquer avec la société et puis avoir un savoir et une compétence de connaissance. Ou un autre exemple, dans l'économie de la connaissance qui est devant nous, vous avez des industries gigantesques qui se construisent, ce qu'on appelle les industries de la connaissance, avec des enjeux sur les bases et les banques de données, sur les droits d'auteur, le copyright.
Donc vous allez étudier tout ça.
Voilà, ça, ce sont des objets de recherche pour nous, complets. Autre exemple, tout ce qui concerne le langage et la compréhension humaine, la psychologie, la linguistique, comment les hommes se comportent individuellement, communiquent. Il y a déjà beaucoup de travaux dessus, mais on peut les valoriser et les amplifier. Autre exemple, puisqu'on est dans un studio de radio, quel changement pour nos sociétés le fait d'avoir une omniprésence des radios, des télévisions, des ordinateurs, des satellites ? Qu'est-ce que ça change dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, dans les rapports politiques ? Et un autre type de question, par exemple, puis je m'arrêterai là, on est confronté à la mondialisation des techniques de communication, qui à la fois renforce les riches et appauvrissent les pauvres, qui en même temps distribue dans le monde des informations qui sont toujours finalement des facteurs de conscience et de révolte. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation de l'information et de la communication ? Qu'est-ce que c'est que les conditions du respect de la diversité culturelle ? À quelles conditions les cultures peuvent-elles dialoguer ? Peut-on éviter la guerre des civilisations? Voilà des questions typiques qui mettent la communication au cœur, si vous voulez. La communication, c'est une question théorique qui est très ancienne, mais qui devient centrale dans toutes les sciences.
Alors tout ça, ça fait beaucoup de sujets, et puisque vous êtes au CNRS et puisque vous vous intéressez aux scientifiques, est-ce que ça veut dire que le statut du scientifique est en train de changer, puisqu'on s'intéresse à la communication du scientifique?
Si vous voulez, le grand changement, moi j'avais 25 ans que je faisais des recherches sur la communication. J'ai eu pas mal de résistance dans mon institution parce que pendant très longtemps on m'a dit mais c'est pas un objet scientifique sérieux, l'information et la communication, les scientifiques détestent la communication parce qu'ils considèrent que c'est vraiment ce qu'il y a de plus vulgaire. Mais je leur dis mais attendez, il n'y a pas d'information sans communication. On peut pas anoblir l'information et dévaloriser la communication parce que si votre information ne passe pas, c'est bien parce que la communication a échoué. Donc si je puis dire, il n'y a pas d'information sans communication. Et réciproquement, évidemment, il n'y a pas de communication sans information. Donc c'est compliqué, mais les scientifiques ont été très longtemps réticents là-dessus, ils s'intéressaient qu'à la connaissance, ils ne croyaient pas que l'information c'était nécessaire, ils pensaient encore plus que la communication était nulle.
Et leur regard a changé aussi là-dessus.
Oui, parce qu'ils négociaient avec des politiques, parce qu'ils négociaient avec des militaires, parce qu'ils négociaient avec des chefs d'entreprise, parce qu'ils sont obligés de faire de la valorisation, parce qu'ils sont obligés d'éditer leurs résultats de recherche, parce qu'ils sont dans de la compétition internationale qui est de la communication politique, où ils s'engueulent entre scientifiques. Donc d'un seul coup, en moins de 30 ans, les scientifiques ont compris que la communication fait partie de leur vie quotidienne.
Et parce qu'ils ont besoin aussi de parler de leurs travaux, entre autres, à la radio. Dominique Volton, vous dites qu'il faut sauver la communication, c'est une valeur humaniste et démocratique. Vous pouvez me développer ça, s'il vous plaît?
Oui, parce que si vous voulez communiquer, pendant des siècles, on n'a pas communiqué avec les gens. Communiquer au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens de nos sociétés démocratiques, c'est reconnaître l'égalité de l'autre, donc reconnaître l'identité, l'égalité et l'altérité. C'est-à-dire que
Donc il y a du respect.
Il y a du respect.
Il y a de la communication.
Dans toutes les sociétés hiérarchiques qui ont quand même dominé jusqu'au, si je puis dire, début du XXe siècle, on ne communique pas, on transmet de l'information. Il n'y avait de communication qu'au sein de la noblesse, de l'élite, et encore. Donc très souvent, la communication était inégalitaire. La grande révolution de la démocratie, c'est que pour communiquer, on admet que tout le monde est égal et qu'on a le droit de dire son opinion. La liberté d'expression et la liberté d'opinion, elle suppose l'égalité, donc elle suppose une communication. Mais il a fallu 3 siècles pour y arriver. Donc c'est une valeur humaniste parce qu'elle reconnaît l'égalité de l'homme en face. Et c'est aussi une valeur humaniste parce qu'elle reconnaît que l'autre a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Pendant des siècles, quand on disait quelque chose à quelqu'un, s'il n'était pas d'accord, on le tuait. Alors ça continue à se faire, hélas, dans une bonne partie de l'humanité. Oui. Mais si vous voulez, maintenant, on comprend bien que finalement, communiquer, ça oblige à négocier.
Oui, et on peut tuer avec des mots.
Bien sûr. Tandis que la communication, elle consiste à dire, au bout d'un moment, je suis obligé de respecter l'autre. Donc en fait, la séquence intellectuelle qui m'intéresse, c'est la séquence suivante. Vous voulez communiquer en général pour 3 types de raisons. Pour informer, pour séduire, parce que nous sommes tous dans la vie. Soit pour partager. Et parfois convaincre, c'est la même chose.
Donc ça, ce sont les 3 socles de la communication.
Mais peu importe les raisons pour lesquelles on se met à communiquer, mais on le fait. Et qu'est-ce qu'on découvre tous? C'est que l'émetteur n'est pas en ligne avec le récepteur et que quoi qu'on dise à l'autre, et quelle que soit la raison pour laquelle on lui dit quelque chose, la plupart du temps, l'autre s'en fout, on n'est pas d'accord. Donc on découvre vite l'incommunication. Et là, et c'est ça le progrès de la démocratie et de l'humanité, c'est qu'au lieu de tuer l'autre parce qu'il n'y avait pas de communication, on se met à négocier avec lui, ce que nous faisons tous dans notre vie privée, comme dans notre vie publique. Et quand cette négociation se termine bien, on fait ce qu'on appelle une cohabitation. Et bien cette séquence, communiquer pour partager ou convaincre, qui débouche sur l'incommunication, qui oblige à la négociation et qui finalement conduit à la cohabitation, c'est exactement ça la séquence de la communication. C'est une séquence dans laquelle l'incommunication est aussi présente que la communication. Et cette séquence-là, c'est la séquence de la démocratie. Puisqu'en démocratie, on passe son temps à cohabiter avec des gens avec qui on ne partage pas les idées. Donc c'est pour ça que j'existe une valeur démocratique également.
D'accord, donc ça commence à la maison avec son conjoint et ça s'étend au monde entier. Alors justement, à propos de la mondialisation, est-ce que la communication va en tirer des bénéfices de la mondialisation ou bien est-ce qu'elle peut en mourir?
Ben, si vous voulez, pour l'instant, elle en bénéficie de cette mondialisation parce que la mondialisation des techniques et des marchés est un secteur en pleine expansion. Je rappelle quand même que toutes les économies développées se mesurent à la place des systèmes d'information et de communication dans les industries culturelles, dans le cinéma, dans la télévision, dans la radio, dans les logiciels. Donc on considère que les pays riches, les nôtres, sont des pays dans lesquels on est bon dans les industries culturelles et de la communication. Donc ça y va pour les tuyaux, si je puis dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que plus il y a de tuyaux, plus il y a de tuyaux interactifs, plus on s'aperçoit que ça ne marche pas.
Ouais, plus ça fait des nœuds.
Plus ça fait des nœuds, ça fait des bugs. Parce que les hommes, les cultures, les langues, les civilisations ne sont pas au rendez-vous. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette contradiction entre la pléthore de techniques et la difficulté de la communication. Comme je dis souvent, oui, nous sommes face à un village global, incontestablement, mais il est technique seulement. il n'est pas humain et social. Et c'est pour ça que la question de la communication devient une question politique. Pourquoi ? Parce qu'elle, finalement, elle suppose que les gens vont être d'accord entre eux, ils ne sont pas d'accord, et donc on est obligé d'entrer dans un processus général de négociation.
Et comme vous dites que la communication est un des grands enjeux du XXIe siècle, je comprends bien que ce que vous voulez dire, mais ça veut dire quoi au bout du compte ?
Ça veut dire qu'on a les
tuyaux. Comment est-ce qu'on peut la sauver ?
On va d'abord appréhender son importance. Pour l'instant, on appréhende son importance par la fascination technique. On est tous fascinés par les tuyaux, Internet, la radio, la télé, on pense tous, de bonne foi,
Vous avez oublié le téléphone portable.
Oui, tout le portable. Je rappelle les chiffres. Nous sommes 6 milliards et demi sur Terre, 4 milliards et demi de postes de radio. Donc c'est de loin le premier média. Deuxième, 3 milliards et demi de postes de télévision. 2 milliards et demi de téléphones portables. Et à peine 1 milliard 2 d'ordinateurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a partout des techniques, mais que l'ordinateur n'est pas la première technique. En tout cas, on a ce village global technique. On suppose que plus il y aura de messages diffusés, plus les hommes se comprendront. Plus on découvre l'importance de l'incommunication. Donc pourquoi je dis que c'est une question pour le XXIe siècle ? C'est parce qu'on n'a pas pris suffisamment conscience que la question de la communication, c'est une question politique. Puisque négocier avec autrui et cohabiter avec lui, c'est de la politique, au sens le plus strict du terme. Donc qu'est-ce que vient faire la mondialisation là-dedans ? Eh bien, c'est qu'il va bien falloir gérer cette espèce de hiatus considérable entre des techniques performantes et des hommes qui ne communiquent pas entre eux. Et c'est pour ça que la communication va devenir au niveau mondial un enjeu politique. C'est la même chose que pour la cohabitation mondiale. Il va falloir apprendre à cohabiter. Et pour finir là-dessus, je dirais qu'on a un retard à l'allumage. Si je puis dire, c'est sur l'écologie, c'est gagné. Tout le monde a compris que c'est un enjeu fondamental. La santé, tout le monde a compris.
On a compris. C'est gagné. C'est pas pour ça que les gens vont changer de comportement.
Et même si les États-Unis n'ont pas signé Kyoto, tout le monde sait très bien qu'un jour, il faudra respecter Kyoto et mieux. Donc, on a compris que l'éducation, c'est une question politique. On a compris que la santé, c'est une question politique. On a compris que l'environnement, c'est une question politique. On n'a encore pas compris que la communication, c'est une question politique. On la réduit trop à une question technique et économique.
On connaît quand même, pourtant bien, le poids des mots.
Bien sûr. Le problème, c'est que le poids des mots, le choc des photos, ça ne suffit pas à créer la communication. C'est l'émission, ça. Après, si je puis dire, il faut voir comment ça se négocie dans la tête des récepteurs.
Alors, vous avez créé cet Institut des sciences de la communication. J'ai cru comprendre que vous avez eu du mal.
Oui, parce que si vous voulez, le milieu scientifique, c'est comme tous les autres milieux. Il fonctionne avec des stéréotypes. Et donc, les scientifiques disent « Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds avec l'information et la communication ? C'est pas sérieux, c'est pas important. Et puis, s'il y a quelque chose de bien, c'est l'information, surtout pas la communication. C'est que de la com. » Alors, je rappelle la différence entre com et communication. La com, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire on essaie de séduire, de manipuler autrui, on vend. Et la communication, eh bien, si je puis dire, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est que même si on veut faire de la com, ben, finalement, ce qu'on cherche toujours, c'est l'autre. Quelqu'un qui vous écoute, qui vous aime et qui dialogue. Donc on ne peut pas dissocier com et communication, on peut critiquer plus facilement la com que la communication.
Mais la communication, c'est de l'échange, c'est ça ?
Bien sûr, c'est de l'échange, c'est la recherche de l'autre. C'est ce qu'on voit le dimanche après-midi souvent, quand vous avez des hommes et des femmes seuls qui se promènent dans la rue avec le téléphone portable à la main, parce que personne n'a leur téléphone, qu'ils attendent désespérément que ce téléphone sonne, et ce téléphone, c'est l'espèce de figure emblématique de cette main qui n'existe pas et qui voudrait bien. La communication, c'est l'autre. La communication, d'ailleurs, étymologiquement, c'est la question de l'amour. Ce qu'on cherche dans la communication, c'est l'autre, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la chaleur, c'est les sentiments. Donc c'est un mot extrêmement fort dans la tradition occidentale et dans toutes les civilisations. On peut le critiquer. On peut critiquer les publicités stupides, les désinmanipulations. Mais de grâce, c'est comme la démocratie. On peut critiquer toutes les dérives de la démocratie. C'est un concept indépassable. Ben, la communication, c'est pareil. Et la différence entre communication et démocratie, c'est que si vous voulez, c'est enfin acquis que la démocratie, c'est un grand concept. On n'a encore pas compris que la communication, c'est la même chose.
Alors, vous avez donc créé cet Institut des sciences de la communication. Vous avez eu du mal. Et aujourd'hui, les scientifiques du CNRS, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils viennent vous voir ?
Ah, écoutez, là, c'est une bonne surprise, si je puis dire. Après 20 ans de bataille et de résistance intellectuelle, oui, il y a vraiment une adhésion. Alors, pas seulement de la part des sciences de l'homme, mais aussi des mathéus, des physiciens, des chimistes, des biologistes. Parce que tous, ils ont compris que leur théorie de la connaissance, leur discipline, ont été modifiées par des modèles d'information et de communication. Donc, d'un point de vue d'une théorie de la connaissance stricte d'épistémologie, ils disent, tiens, on a intérêt à travailler et à comparer.
Ah, c'est quand même à travers la communication qu'ils sont notés.
Tout à fait. Et deuxièmement, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus rester dans leur tour d'ivoire. Donc, tous sont confrontés à la politique quand ils cherchent des crédits, quand ils négocient avec des étudiants, quand ils négocient avec des universités, quand ils négocient avec le ministère. Et donc, par conséquent, il n'y a plus un scientifique qui peut rester sur sa paillasse en disant « moi, je m'en fous du reste du monde ». Donc, tous sont maintenant confrontés à une problématique de communication scientifique, publique et politique. Et donc, par conséquent, ils sont obligés de s'apercevoir que l'autre existe et qu'il ne suffit pas d'avoir raison tout seul dans son coin. Si on n'est pas capable d'expliquer simplement ce qu'on fait, c'est grave. Et si on n'est pas capable de créer un minimum d'adhésion, à ce moment-là, il n'y a pas de démocratie.
La communication, c'est aussi la tolérance. Si Copernic avait vécu à cette ère de la communication qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années, qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis ?
Alors, vision optimiste, il aurait bien mieux fait passer son message, il aurait été accepté. Il y aurait eu une négociation scientifique et politique et sa vision du monde aurait été beaucoup plus facilement acceptée. Ou bien, vision un peu moins optimiste, le fait de communiquer ses résultats n'aurait pas suffi à convaincre. Et donc, par conséquent, on aurait pu avoir la même issue que celle qu'on a eue. Autrement dit, il n'y a de communication réussie que si les partenaires partagent à peu près les mêmes codes et les mêmes valeurs.
Mais comment l'auriez-vous aidé, Copernic ?
D'abord en simplifiant le message, deux, en l'insérant dans un contexte historique et politique et scientifique, en disant voilà ce qui est à découverte, elle se situe par rapport à ça, elle va ça, et essayer naturellement, c'est ça toute la difficulté de la communication, en essayant de trouver un public qui aurait été réceptif à ses thèses, et un public plus large. Plus vous êtes original, et plus pour que votre message soit accepté, plus vous êtes obligé de faire un travail, si je puis dire, de conquête du public. De lobbying, c'est inévitable. De toute façon, la communication oblige toujours à une démarche vers autrui. Mais nos sociétés, d'ailleurs, c'est un des grands paradoxes, si vous voulez. Il y a plusieurs paradoxes des sciences de la communication. Il y en a un, plus vous avez d'informations publiques, plus il y a de rumeurs. Les êtres humains adorent la rumeur. Et plus on leur dit les choses publiquement, gratuitement, plus on nous raconte des bêtises et ça relance la rumeur.
Ah, c'est vrai, oui, oui.
Deuxième constat, chaque technique qui est inventée, que ce soit la radio, puis la télévision, puis l'ordinateur, etc., est vantée comme étant une technique plus efficace que la précédente et comme devant aboutir à la fin de la technique précédente. Ben non. Les hommes, d'une certaine manière, empilent le journal, le livre, la radio, la télévision, l'ordinateur, les réseaux, etc., etc. Quatrième paradoxe des sciences de la communication, toutes les techniques sont inventées pour permettre aux hommes de se parler plus et d'éviter de se déplacer.
C'est vrai.
Il y a plus de techniques de communication, plus les hommes se déplacent.
Mais ça, ce sont des chiffres. Des chiffres que vous avez.
Mais regardez un chef d'entreprise, une multinationale ou un homme politique. Pourquoi ils passent son temps à voyager ? Ils ont aujourd'hui toutes les infos publiques, secrètes.
On fait des vidéoconférences.
Oui, d'accord. Mais dès qu'il est question de quelque chose, dès que c'est important, ils se déplacent.
Et pourquoi ?
Parce qu'une raison très simple, c'est admettons qu'il y ait une négo à signer entre deux grosses entreprises. Le gars va dire putain, avant de signer, il faut jouer à la gueule du gars. Et voilà, gueule du gars, c'est un déplacement, c'est du protocole, c'est du temps passé, c'est de la fatigue, c'est des repas. Mais dans tous ces moments-là, chacun s'observe. Et dans toute cette technique de communication non écrite, se joue finalement, j'y vais ou j'y vais pas. Et même chose pour les hommes politiques. Parce que quand il s'agit de la paix et de la guerre, on a besoin de voir la tête de l'homme d'État en face de soi. Donc on y va, on perd du temps dans le protocole, on est fatigué. Mais dans tout ça se joue une espèce de communication infraverbale qui fait que finalement on aura confiance dans tel homme et pas tel autre.
Mais pourquoi faut-il voir en chair et en os et non pas sur un écran ? Quelle est la différence ?
Eh bien, ce que vous venez de prononcer le mot essentiel, c'est la catégorie de l'expérience. C'est-à-dire que le monde virtuel n'est jamais le monde réel et les grandes décisions se font toujours sur du monde réel. Même si vous avez Second Life aujourd'hui sur Internet, ça change.
Vous avez étudié ça dans votre institut ?
Oui, il y a des recherches là-dessus. Tout ce qui est nouvelle technologie, en gros, les demandes sont fortes. Mais moi, je suis plutôt intéressé par favoriser des recherches sur, par exemple, comment on communique à Rome ou à la cité grecque. Parce que ce n'est pas le contemporain qui a inventé la communication. Depuis que les hommes sont sur Terre, ils vivent en société. Donc, quand vous vivez en société, vous cohabitez, donc vous communiquez. Donc, ça m'intéresse, du point d'une perspective historique et comparative, de favoriser des recherches en Asie, en Amérique latine, peu importe, ou dans l'histoire du bassin méditerrané, pour voir comment autrefois fonctionnait l'espace public, la nature des médias, des systèmes de communication, que c'était les plaquettes d'argile ou du papier à partir du 16e, etc. Donc, les hommes ont toujours besoin de se rencontrer, de s'échanger, de s'évaluer physiquement, même s'ils peuvent aujourd'hui tout faire à distance.
Franchement, on a fait des progrès depuis les plaquettes d'argile dont vous venez de parler. Est-ce qu'on a évolué ?
Oui, on a quand même évolué, mais ça rend les choses de plus en plus compliquées, y compris jusqu'à la Convention sur la diversité culturelle. C'est que le principal progrès qu'on vient de faire en 3-4 siècles, ça a été de reconnaître que l'autre existe. C'est que moi, ce qui m'intéresse dans la communication, c'est que l'autre, il est absolument différent de soi et qu'on va être obligé de cohabiter avec lui. Donc l'autre existe, on ne le tue pas, il n'est pas hiérarchique par rapport à soi. Et maintenant, avec la Convention de la diversité culturelle, il faut admettre que sa différence de langue, de philosophie, de religion est aussi égale que la mienne et que je n'ai pas de supériorité. Autrement dit qu'une civilisation technique comme la civilisation américaine, ou la société américaine, ce n'est pas forcément une civilisation, elle a beau avoir toutes les puissances financières, techniques, militaires, ça ne lui donne pas une supériorité quelconque. Et on le voit très bien en Irak, comme on l'a vu en Afghanistan. sont des pays beaucoup moins riches et beaucoup moins puissants, mais l'intelligence des hommes sur place est exceptionnelle et met en échec la plus grande puissance militaire du monde. Ça s'était déjà fait d'ailleurs au Vietnam avant. Et nous, les pays européens qui sommes devenus enfin modestes, il nous a fallu pour devenir modestes, tout le 20e siècle, on s'est fait battre dans deux guerres mondiales et dans toutes les guerres de décolonisation. Si vous prenez le peuple vietnamien, c'est quand même intéressant de voir comment un peuple 90 millions, était capable de résister aux Japonais, de battre les puissances coloniales britanniques et françaises, et naturellement ensuite de battre les puissances américaines. Donc ça veut dire qu'il y a une intelligence gigantesque.
Ils ont toujours combattu, c'est vrai. Ouais.
Bien sûr. Et prenez même un Européen ou un Américain. La différence entre un Européen et un Américain, c'est que nous, par nos échecs successifs, nous savons que l'autre est intelligent. Un Américain, il le comprendra un jour. Pour l'instant, il confond un peu la supériorité technique. Mais vous mettez un Américain ou un Européen avec tout son barda technologique dans le fin fond de l'Afrique équatoriale ou dans des pays subsahariens, mais il n'est pas capable de résister, de tenir. Alors que les peuples du Sahara ou de l'Afrique équatoriale, par exemple, ou de la Mélanésie ou de la Polynésie, si vous allez plus loin dans les océans, sont capables de tenir depuis des siècles avec des techniques qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Autrement dit, vous pouvez être hyper compétent techniquement et complètement perdu si vous n'avez pas vos outils. Pour un exemple simple, regardons-nous nous-mêmes quand on n'a pas notre portable pendant deux jours, téléphone portable ou ordinateur. Les gens qui ne peuvent pas passer deux heures sans regarder ce qui vient d'arriver comme mail. Donc, ce qui est fascinant dans la communication...
Vous êtes comme ça, vous, non ?
Non. Non, parce que je pense que la tyrannie du temps est effrayante et qu'on a intérêt à garder de... Puis moi, je préfère le téléphone portable parce que c'est la voix, c'est la chaleur. Et puis, c'est quand même toujours, la plupart du temps, des rapports affectifs. Tout ce qui est professionnel, ça passe par du courriel. Tout ce qui est important, c'est-à-dire qui est affectif, ça passe par le téléphone. D'ailleurs, on le sait très bien. Tous, il suffit de regarder dans la rue. Dès que quelqu'un se tourne, c'est qu'il reçoit un coup de téléphone privé. Et la première question où on voit très bien que c'est du privé, c'est quand il dit « t'es où ?» Et tout le monde dit « t'es où ?» Le téléphone portable nous a franchi du temps et de l'espace. Et la première question que l'on pose, c'est on demande à l'autre de se resituer dans le temps et dans l'espace.
Oui.
C'est comme la radio. Pourquoi la radio, c'est génial en matière de communication ? C'est parce qu'il n'y a que la voix. Mais avec la voix, on imagine. Et donc, par conséquent, c'est la même chose avec les techniques de communication. Donc, aussi performantes soient-elles, au bout d'un moment, il faut les arrêter parce que c'est l'expérience de la rencontre qui fait la force des rapports humains et sociaux.
Dominique Volton, j'aimerais bien que vous nous disiez à quoi passe son temps un chercheur en communication. Il écoute la radio, il regarde la télé, il se balade sur Internet, il regarde les gens. Qu'est-ce que vous faites, vous ?
Pour tous ceux qui travaillent sur le langage et la communication, oui. Mais vous avez d'autres grands champs. Bon, premier champ de recherche, on fait ça. Deuxième grand champ de recherche, tout ce qui concerne l'espace public, la communication politique, même chose. Participation, observation, lecture.
Oui, y compris les gestes, les postures,
absolument,
la façon de s'habiller.
La communication non-verbale aussi. Simplement, il faut pas... C'est très important la communication non-verbale, mais on ne peut pas en tirer de conséquences directes trop fortes parce que si vous voulez, si on se met à interpréter trop les gestes, on n'en sort pas. Les êtres humains sont d'abord des êtres de parole, donc de langage. Donc c'est le langage qui est un peu notre boussole. Bon, ceux qui travaillent sur la mondialisation, ben, ils sont obligés de voyager, etc. Ceux qui travaillent sur les bases et les banques de données, les systèmes d'information, tous les enjeux de l'industrie de la connaissance, là, ils sont dans les enjeux futurs de demain. Donc, c'est-à-dire, comment va-t-on préserver le droit d'auteur? Comment va-t-on préserver la répartition inégalité nord-sud, etc. Et puis, ceux qui travaillent sur les rapports entre sciences, techniques, société, ben, ils sont aussi obligés d'observer. Si vous voulez, le grand changement, c'est, ça se voit bien dans la création de cet institut, c'est la prise de conscience qu'il n'y a pas de science aujourd'hui possible sans communication et qu'il n'y a pas de société sans communication. C'est un sacré changement.
Et quelles sont les retombées qu'on peut attendre de cet institut ?
Alors, d'abord une meilleure compréhension des mécanismes de diffusion d'informations, une meilleure compréhension des difficultés de la communication, probablement les limites et les forces des techniques de communication et finalement la supériorité de l'homme sur tous ces outils. La difficulté de la communication interculturelle et la nécessité de respecter des cultures et des civilisations qui ne communiquent pas comme nous, mais qui ne sont pas pour autant inférieures. Probablement une prise de conscience qu'il va falloir réguler au niveau mondial les industries culturelles pour qu'il y ait moins d'inégalités nord-sud. Aujourd'hui, 80% des flux d'informations sont nord-sud et rien ne remonte du sud vers le nord. Et le monde occidental vend au reste du monde ses logiciels, ses programmes de radio, de télévision et d'ordinateur et de cinéma. Le fait qu'il va falloir, si on veut, dans un univers d'interaction complète, au contraire, préserver la différence de... Une question qui m'intéresse énormément en épistémologie, c'est plus on est dans une société ouverte où tout communique, plus il faut préserver la différence de style. Si vous voulez, un policier, c'est pas un militaire. Un militaire, c'est pas un scientifique, c'est pas un curé, c'est pas un politique. Autrement dit, oui, à tout ce qui circule.
Un mathématicien, c'est pas un biologiste.
Voilà. Donc il faut absolument renforcer simultanément la communication et l'identité. D'ailleurs, je pense qu'une des grandes ruptures du XXIe siècle, c'est qu'il faut, si la communication est la grande rupture, il faut alors revaloriser l'identité, parce qu'il n'y a pas de communication sans identité.
Et la première communication, c'est à la maison, quand on appelle sa maman. Je l'ai compris, cet institut des sciences et de la communication, on peut en attendre beaucoup de choses. À l'étranger, il y en a des instituts comme celui-ci ?
Oui, il y en a depuis une vingtaine d'années. L'originalité du nôtre, si vous voulez, c'est que c'est le CNRS, l'originalité. C'est oui. que toutes les sciences sont présentes chez nous. Donc vous en avez beaucoup pour les sciences de l'homme. Mais nous, l'avantage de cet institut, c'est qu'il est transversal aux mathématiciens, aux physiciens, aux chimistes, aux biologistes et aux sciences de l'homme.
Aux donc, astronomes.
Coup, voilà, aux astronomes, aux sciences de l'univers, aux sciences de la nature. Et donc, si vous voulez, c'est ça la richesse, c'est l'épistémologie comparée possible. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est la paix et la guerre, le 21e siècle, autour de la communication, parce que ou bien on fera des efforts pour comprendre combien la communication est difficile entre les peuples et cultures, et on aura la paix, ou bien on confond la performance des outils avec la difficulté de la communication humaine et on risque d'avoir la guerre. Donc c'est vraiment un enjeu de paix et de guerre, la communication.
Et c'est un sujet dont on parle beaucoup quand même depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, la revue que vous dirigez, qui s'appelle Hermès, va fêter ses 20 ans
l'an
prochain.
Tout à fait. Alors je suis très content parce que quand j'ai créé cette revue il y a 20 ans, bon, on disait oui d'accord, c'est original, mais c'est une revue interdisciplinaire. C'est la principale revue francophone des sciences de la communication. Et c'est 3 numéros par an. C'est en fait des livres, hein, parce que c'est des livres thématiques, c'est collectif. Et donc, par conséquent, on essaie d'explorer. Donc, on a fait un numéro sur la société du savoir et ses critiques. Là, on va sortir un numéro sur le nouvel espace public lié avec les nouvelles technologies. On va sortir un numéro sur les musées, un numéro sur la guerre des mémoires. Enfin, vous voyez, ce sont des sujets très, très larges où, en fait, une problématique de communication permet de revisiter les sciences traditionnelles.
Comme tout cela est passionnant. Dominique Volton, merci beaucoup. Merci pour
merci
cette
beaucoup.
Heure que nous avons passée en votre compagnie. J'espère que vous reviendrez. Voilà, Osmose, c'est terminé. Après les informations, vous retrouverez Brigitte Palchine. Elle reçoit aujourd'hui Nicole Rosen pour un livre qui s'appelle 15 jours en juillet. C'est paru chez Jean-Claude Lattès. Osmose, aujourd'hui, c'était avec Catherine Rosier, comme toutes les semaines à la réalisation, assistée de Joël Levert. Les disques sont choisis avec beaucoup de précision par Karl Vasseur. À la technique ce soir, il y avait Elisabeth Collet. On vous a donné pas mal de références dans cette émission aujourd'hui. Vous retrouverez tout sur le site d'Osmose. N'hésitez pas à en abuser. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et à dimanche prochain, 1h du matin.